AR.
Accent d'Europe, Laurent Berthaud, Nathalie Amar.
Bonjour Laurent.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, quand les émigrés choisissent de rentrer dans leur pays d'origine.
Des illusions au rendez-vous pour les Polonais partis faire fortune au Royaume-Uni. En Espagne, les mesures d'aide au retour n'ont convaincu ni les Africains ni les Européens de l'Est.
Une exposition à Prague, le bonheur en famille.
On y découvre en réalité photos et vidéos d'enfants placés en institution.
Il sera également question aujourd'hui d'un lycée hors norme en Hongrie.
À 300 km de Budapest, le lycée Ambedkar offre aux adultes et à la minorité rom, la possibilité de passer leur bac.
Et puis une émission de télé-réalité qui passionne les Britanniques en ces temps de crise.
Elle met en concurrence de jeunes loups de la finance. Un seul deviendra le bras droit d'un célèbre homme d'affaires.
Ils étaient partis chercher une vie meilleure et surtout de meilleurs revenus à l'étranger, mais lorsqu'ils rentrent chez eux, les émigrés d'Europe de l'Est parfois déchantent, Laurent.
C'est notamment le cas des Polonais partis travailler en Europe de l'Ouest. On estime qu'ils sont 2 millions, c'est 5% de la population totale, à avoir profité de l'entrée de leur pays dans l'Union Européenne pour rejoindre la Grande-Bretagne, l'Irlande, la Suède ou encore l'Islande. Avec la crise, les perspectives de travail sont moins grandes et moins avantageuses. Entre 15 et 20% d'entre eux ont donc choisi de rentrer, mais leur pays d'origine a aussi changé, rendant ce retour moins intéressant. Écoutez ce reportage de Frédéric Lebel.
Certains signes ne trompent pas. Après 4 années d'existence, Central Wings, la branche low cost de la compagnie aérienne nationale LOT, a dû mettre la clé sous la porte, plus assez de clients. Tous les Polonais ne sont pourtant pas déjà rentrés. Pour Jerzy Wojciech, chef de la rubrique Société à Gazeta Wyborcza, le journal de référence, le retour est d'autant moins facile que beaucoup de Polonais n'ont pas épargné autant qu'ils le souhaitaient.
After, you know, 2 or 3 years...
Ils sont restés et après quelques années, avec leurs économies, ils se sont dit « on va rentrer, on va ouvrir un restaurant en Pologne pour mettre à profit nos économies ». Mais le problème, c'est que même si c'était une bonne idée, l'argent qu'ils ont mis de côté vaut beaucoup moins à cause de la crise et de la chute des cours. Alors ça va complètement bouleverser leur projet.
La crise est passée par là. La livre britannique qui valait 7 zloty en 2004 ne vaut plus aujourd'hui que 4,9 zloty, réduisant d'autant les économies. Une douche froide quand on sait ce selon l'Institut britannique IPPR, que 2/3 des Polonais installés en Grande-Bretagne épargnent. Bref, mieux vaut peut-être attendre des jours meilleurs.
Nous lisons beaucoup de lettres de nos lecteurs qui habitent à l'étranger et franchement, le ton général qui domine, c'est qu'ils vont rester là où ils sont. Parce qu'en temps de crise, mieux vaut être dans un pays riche, il est plus facile d'y survivre que dans un pays qui tente de se moderniser mais qui en est encore loin. Ils pensent que les assurances sociales à l'étranger sont meilleures et ils en sont très conscients.
Tous les mois, Mathieu Morol organise une petite soirée dans un club branché de Varsovie avec des anciens expatriés rentrés comme lui au pays. À 32 ans, cet ingénieur spécialiste des systèmes d'information a déjà 8 ans d'expérience internationale, 3 ans en Allemagne et 5 ans au Royaume-Uni. Il est rentré en février dernier, contrat en main, mais il avait déjà bien préparé de longue date son retour, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
The first difficulty is to find a job.
La première difficulté, c'est de trouver un job. C'est la chose la plus importante. La plupart des gens pensent que s'ils ont travaillé à l'étranger et acquis une expérience internationale, ils vont facilement trouver du travail. Mais je connais des tas de gens pour qui ça n'a pas été si facile. Il y a 10 ou 15 ans, oui, c'était facile. Mais aujourd'hui, il y a de très bons experts polonais, des bonnes universités. Et donc, la compétition sur le marché du travail domestique est assez forte. Et puis, l'autre chose, c'est que si vous avez vécu à l'étranger, vous perdez vos contacts avec le marché local. Pour certaines industries, la connaissance du terrain, c'est crucial. Donc, curieusement, vous avez gagné une expérience internationale, mais perdu vos connaissances nationales. C'est ça le problème.
Il y a un an, le Premier ministre Donald Tusk avait lancé une grande campagne de séduction pour convaincre les plus jeunes et les plus éduqués de revenir en Pologne. Mais depuis, le chômage a grimpé à 11,2% et les propositions gouvernementales se sont réduites comme une peau de chagrin. Seule la promesse de ne pas taxer doublement les les expatriés au Royaume-Uni et en Pologne a été avancée. Le pays a changé, non seulement le marché du travail est devenu plus exigeant, mais la vie de tous les jours s'avère aussi beaucoup plus compliquée.
Les prix de l'immobilier ont atteint des sommets au cours des deux ou trois dernières années et beaucoup de gens trouvent cela choquant parce que Varsovie est devenue aussi chère que les autres capitales européennes. Et puis, l'autre grand motif de plainte, c'est la bureaucratie. Moi-même, j'ai constaté que c'est incroyable, toute la paperasse et les procédures que vous devez suivre ici. Il y en a bien plus qu'en Allemagne ou au Royaume-Uni. En gros, la vie est plus difficile ici.
Enfin, restent les éternels nostalgiques du rêve anglo-saxon, comme Eva, qui après deux années londoniennes, a du mal à se réintégrer.
Je trouve ça un peu difficile, surtout en raison de certains comportements, l'attitude des gens ici. Ils ne sont pas sympathiques, ils ne sont pas souriants. Vous savez, j'habitais à Londres et tous les vendredis, on sortait, on parlait avec des gens, on rencontrait plein de monde. Ici, on ne fait pas ça, c'est bien plus fermé. Chacun a son petit cercle social, alors j'ai du mal à m'y faire. Et puis, je me suis fait aussi à la qualité des services à l'étranger. Et quand je suis à la gare centrale de Varsovie, je me dis, mon Dieu, c'est tellement vieillot. Bien sûr, j'aime mon pays, alors forcément, quand les gens viennent de l'étranger, je voudrais en être fière.
Alors si certains pays comme la Pologne encouragent leurs ressortissants à rentrer chez eux, d'autres États incitent les immigrés à repartir chez eux. C'est le cas par exemple de la France et de l'Espagne.
La France qui a mis en place des aides au retour à la fois pour les étrangers en situation régulière et irrégulière. Ces derniers en situation irrégulière peuvent même en théorie obtenir une aide financière de l'ordre de 3 500 € pour un couple. Même système incitatif en Espagne où le gouvernement a signé des conventions avec une vingtaine de pays pour aider au retour des immigrés en situation régulière, mais qui se retrouvent au chômage. Dispositif qui rencontre finalement assez peu d'écho, Martine Pouchard.
4000 immigrés en situation précaire au chômage ont décidé de rentrer au pays. Ce retour se fait sous conditions. Les volontaires touchant deux fois le montant de leurs indemnités de chômage, en Espagne d'abord, où ils reçoivent 40% de ce qui leur est dû, puis dans le pays d'origine, dans un délai d'un mois, ils touchent les 60% restants. Mais ce ne sont pas les seules conditions. Il faut renoncer au permis de travail, à celui de résidence et ne plus revenir en Espagne avant 3 ans. Équatoriens, Colombiens, Argentins se sont portés candidats. Ce sont les principales communautés immigrées qui ont accepté ce retour au pays. Mais voilà, le gouvernement espagnol avait d'abord, effet d'annonce oblige, quelque peu surévalué le succès de l'expérience en estimant à 1 million le nombre de candidats possibles. En fait, ils ne sont à cette date que 4000 et le gouvernement désormais envisage que seulement 90 000 personnes choisissent de rentrer au pays. Ces derniers jours, les autorités ont aussi annoncé que des mesures seraient étudiées pour favoriser le retour des personnes au chômage en Espagne d'origine roumaine. Sur une communauté de 718 000 personnes, 70 000 sont sans emploi, 40 000 n'ont droit à aucune indemnité de chômage. Problème, la Roumanie est européenne et l'Espagne ne peut refuser, les accords de Schengen l'interdisent, l'entrée de son territoire.
Expo. L'exposition s'appelle Le bonheur en famille, mais le nom est trompeur. Cette exposition se tient en ce moment à Prague, en République tchèque.
Plusieurs fondations profitent de la présidence tchèque de l'Union européenne pour sensibiliser les visiteurs à l'un des problèmes que rencontre le pays en matière des droits de l'homme, le placement trop systématique d'enfants issus de familles en difficulté dans des instituts spécialisés. Christine Dupré.
L'exposition Le bonheur en famille, ce sont des photos, des textes, des témoignages filmés, des visages souriants ou graves d'enfants et d'adultes qui ont tous un point commun, celui d'avoir été retirés très tôt à leur famille pour des raisons diverses, pauvreté, famille monoparentale ou instable, difficultés à l'école, troubles du comportement diagnostiqués lors de tests psychologiques, jamais de maltraitance ou d'abus sexuels à la maison. Pourtant, selon les organisateurs de l'expo, 62 enfants tchèques sur 10 000, roms et non-roms, seraient confiés actuellement à des orphelinats, centres éducatifs et autres institutions alors qu'ils disposent d'au moins un parent. C'est un record européen pour un pays relativement riche. Qui plus est, le placement est souvent irréversible quand bien même la situation de la famille s'améliore. Un homme raconte qu'il lui a fallu 10 ans pour ramener dans leur foyer les enfants de sa compagne. Il lui avait été retiré alors qu'elle était seule et en situation très précaire. Tous les témoignages font état des dégâts psychologiques causés par ces séparations souvent évitables. Mieux vaut trouver un moyen d'aider de stabiliser les familles en difficulté. Oui, mais voilà, il y a en face un système hérité du communisme et des acteurs, directeurs et personnels des centres pour enfants, psychologues, éducateurs, qui se serrent les coudes pour garder leur place et font jouer leur relais dans les ministères. Avec succès, puisqu'en 20 ans, pas grand-chose n'a changé. À travers cette expo, visible jusqu'au 14 mai au Palais Nostitsky à Prague, plusieurs fondations essayent donc de sensibiliser l'opinion et la classe politique tchèque. Le gouvernement sortant avait promis de faire bouger les choses.
Reportage.
C'est un lycée hongrois plutôt hors norme que nous vous proposons de découvrir maintenant. Donc, il forme l'élite intellectuelle du pays. Son originalité, c'est plutôt d'offrir leur chance aux Roms ainsi qu'aux adultes qui souhaitent préparer leur baccalauréat.
Car si la moitié des jeunes hongrois passent leur bac, seuls 5% des enfants tziganes décrochent ce diplôme. D'où l'idée de Tibor Derdak, enseignant et ancien député, de fonder en 2007 le lycée Ambedkar. Construit loin de la capitale, il accueille aujourd'hui 200 élèves, jeunes et adultes. Le reportage de Florence Labruyère.
Un cours d'anglais au lycée Ambedkar dans le petit village de Chayokaza. Nous sommes au nord de la Hongrie, à 3 heures de route de Budapest. Sur les 3000 habitants, un tiers est tzigane, comme dans beaucoup de villages de la région. Des villages isolés, mal desservis par les transports et qui n'offraient aucune perspective de formation aux jeunes jusqu'à l'ouverture du lycée Ambedkar. Tibor Derdak, directeur du lycée.
Ici, on trouve une population qui est sans aucune possibilité de continuer ses études. Beaucoup de jeunes qui vivent dans des petits villages ou dans des banlieues de villes industrielles et qui auraient besoin de perspectives qui ne leur auraient pas donné dans le système scolaire hongrois. Il y a quelques jeunes de 14 ans, 15 ans qui viennent dans notre lycée, mais la grande masse de nos élèves sont plus adultes. Pas seulement plus âgés, mais parfois déjà à l'âge de 16 ans, 17 ans, ils ont déjà une famille, ils ont déjà même 2-3 enfants parfois. Dans un lycée normal, ce serait impossible d'y aller. Chez nous, c'est normal.
C'est un peu un collège de la seconde chance, en fait.
Pour beaucoup d'entre eux, c'est la première chance. La plupart de nos élèves savent lire et écrire, mais sont incapables de lire une page d'un journal, de n'importe quel manuel de biologie, d'histoire, de géographie. Comment utiliser le métro, par exemple? Ce sont des jeunes qui veulent s'intégrer dans la vie de la société. Ils n'auront jamais de travail dans ces conditions.
S'ils ne passent pas le bac, ils n'auront jamais de travail.
Voilà.
Pas facile de retourner au lycée à l'âge de 45 ans. C'est le cas de Renata qui s'accroche. C'est son troisième cours d'anglais et elle arrive déjà à dire des phrases toutes simples.
There is one map.
Si Renata est aussi motivée, c'est pour plusieurs raisons.
C'est pour aider mon fils à faire ses devoirs quand il apprendra l'anglais. Et puis aussi pour moi, pour mon développement personnel, je veux essayer de passer le bac.
Au cours d'anglais, Renata s'est faite une amie, Kataline, 30 ans. Kataline a quitté l'école à 15 ans. Elle veut passer son bac pour devenir infirmière. Le plus surprenant, c'est que Kataline n'est pas tzigane, mais elle veut, elle aussi, profiter de ce lycée de la seconde chance. D'autres ont suivi son exemple. Aujourd'hui, au cours d'anglais, la moitié des élèves ne vient pas de la communauté rome, mais de l'ethnie majoritaire. Et tout ce petit monde s'entend très bien, comme le raconte Kataline.
Nous, les élèves de cours du soir, on s'est habitués à étudier ensemble. On passe 3 après-midi ensemble par semaine, de 3h30 à 6h30. Alors on a vite sympathisé, on est devenus copains. Il n'y a pas à dire, tout le monde s'aime bien.
Le soir, dans la cuisine de la maison commune, les professeurs se retrouvent autour d'un bon petit plat. La maison est un lieu de vie, ouvert aux élèves. Il y a des ordinateurs et au mur, des photos de Martin Luther King et de Barack Obama. Tous les profs sont hongrois,
certains issus de la communauté rome, tous sauf Julian Ingram, un jeune Américain qui enseigne l'anglais aux adultes.
Pourquoi apprenez-vous l'anglais? C'est ce que j'ai demandé à mes élèves. Tous m'ont répondu, on ne fait pas ça pour nous, mais pour nos enfants et nos petits-enfants. Parce que s'ils voient qu'on est motivé et qu'on croit en nous-mêmes, eh bien ce sera contagieux, cela donnera confiance en eux pour faire tout ce qu'ils veulent dans la vie. Moi je trouve ces gens formidables. Ça montre que les Européens ont tort d'avoir tous ces préjugés vis-à-vis des Tziganes. Ils les prennent pour des paresseux, des bons à rien, qui n'ont aucun projet, aucune envie. Moi, je me suis aperçu que ces préjugés n'avaient pas grand-chose à voir avec la réalité.
Après celui de Chayokaza, un deuxième lycée de la seconde chance devrait ouvrir ses portes à la rentrée prochaine.
Média.
Et c'est un apprentissage pour le coup bien plus médiatique que les Britanniques peuvent suivre sur leur petit écran, Laurent.
Oui, c'est déjà la cinquième saison d'une programmation phare de la chaîne BBC One, The Apprentice, l'apprenti. Le principe de cette émission de télé-réalité est simple. Des jeunes gens aspirant à devenir hommes d'affaires sont mis en compétition pour devenir le futur apprenti du magnat des affaires, Sir Alan Sugar. Pour en parler avec nous, Muriel Delcroix, direct de Londres. Bonjour Muriel.
Bonjour Laurent.
Alors, pour mieux donner le ton de cette émission sans pitié, vous nous avez fait parvenir un premier extrait de The Apprentice. On l'écoute.
C'est un entretien venu de l'enfer. Le premier prix, vous travaillez pour moi. Le second prix n'existe pas.
Venu de tout le pays, 15 des commerciaux les plus prometteurs de Grande-Bretagne sont venus à Londres. Ils vont se battre pour un salaire à 6 chiffres en travaillant pour le patron le plus agressif d'Angleterre.
Si jamais vous l'ouvrez encore une fois comme ça, n'essayez même pas de revenir. C'est compris ?
Connu pour être difficile, Sir Alan Sugar est à la tête d'un vaste empire commercial et encore une fois, il est en quête d'un apprenti.
Alors Muriel, ce concept n'est pas nouveau. Importé des États-Unis, il a été fidèlement repris par l'équipe autour de ce redoutable Alan Sugar. Dites-nous exactement ce que ces jeunes loups doivent faire pour gagner l'honneur suprême de travailler pour cet homme d'affaires.
Eh bien, les candidats qui partagent en fait une maison pendant toute la durée de l'émission sont divisés en deux équipes et ils doivent accomplir diverses missions en rapport avec le monde des affaires qui testent leur capacité de vente, de négociation, de travail en équipe, d'organisation et puis de leadership. Alors l'équipe qui a réalisé le plus de profits gagne, tandis que l'équipe perdante commence, elle, sa lente descente aux enfers. L'élimination en fait se fait en deux temps. Après avoir fait face aux critiques cinglantes d'Alan Sugar avec toute son équipe, le chef de projet doit choisir deux de ses collègues et retourner s'expliquer devant l'entrepreneur. Et c'est là qu'après des discussions souvent extrêmement virulentes, Sir Alan finit par éliminer un candidat en prononçant une phrase qui est devenue célèbre ici. Mais je vous laisse plutôt écouter le moment terrible où le couperet tombe.
Bon, messieurs, ça y est. L'un de vous va s'en aller. James, vos deux collègues vous tiennent pour responsable. La logique voudrait que vous partiez. Madge, vous semblez rester à la périphérie et ne pas faire grand-chose. Et Ben, c'est vrai que vous vous êtes mouillé. Je ne peux pas me permettre de garder quelqu'un qui semble ne pas s'impliquer. Et vous n'allez peut-être pas être d'accord, mais Madge, vous êtes viré.
Alors, une mise en scène dramatique à souhait, une émission où tout le monde se prend très au sérieux. Est-ce que c'est ça qui en fait le succès, Muriel ?
Oui, le concept est très malin et commence en fait par une mise en condition des candidats très efficace grâce à tout un tas de rituels. Comme le fait que ses apprentis doivent toujours s'adresser à Alan Sugar en l'appelant respectueusement Sir Alan. Et puis quand ils se rendent dans la grande salle de réunion pour rendre des comptes à l'homme d'affaires qui est flanqué de ses deux conseillers qui ressemblent d'ailleurs plutôt à des employés de pompe funèbre, les candidats arrivent toujours avec leur petite valise pour partir tout de suite s'ils sont renvoyés. Enfin surtout, je crois que beaucoup de ce succès repose sur la personnalité d'Alan Sugar, cet homme d'affaires tonitruant à l'accent londonien à couper au couteau et qui est aujourd'hui à la tête d'une fortune estimé à près d'1 milliard d'euros, il est en fait parti de rien. Il a quitté l'école à 16 ans sans diplôme et il a créé la fameuse société d'informatique Amstrad. C'est un parcours et un homme que beaucoup admirent et qui sait faire rêver, surtout actuellement en pleine récession.
Merci Muriel Delcroix, en direct de Londres. Et c'est déjà la fin d'Accent d'Europe, une émission coproduite par RFI et la Deutsche Welle avec le soutien du programme Euronet.
Françoise Grelot était à la réalisation, à la technique aujourd'hui, Pierre Billot, merci à eux. Au programme demain, Laurent ?
Le partenariat oriental, un partenariat que l'Europe vient de lancer avec 6 pays de l'ancien bloc soviétique.
À demain.